merci. Alors, bravo, Franck. Donc, j'explique très rapidement deux, trois éléments d'organisation. Donc, il n'y a pas de thème prédéfini à la discussion. Le thème, la question, c'est vous qui allez le proposer. Donc, vous pouvez proposer soit sur la forme d'interrogation, soit simplement une notion. Marie-France, notre présidente et secrétaire de séance, note consciencieusement les différentes propositions et ensuite on procède à un vote très cordial à main levée pour savoir quel thème on a envie de voir traité ce soir. Et on peut voter pour autant de questions qu'on souhaite, en tout cas pour le premier tour. Après, s'il y a les deux, le question un peu concurrente, je veux bien vous écouter pour savoir si vous aviez pensé à une thématique, une question que vous voudriez proposer au débat ce soir.
Le sport et l'esprit.
Le corps et l'esprit. Le corps et l'esprit. Bonsoir. La place de la philosophie et son rapport, enfin notamment son rapport à la religion, peut-être à la science aussi. Quand je dis rapport, c'est relations de tout type, influence, impact, etc., etc., et de toute époque. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être reformuler et préciser un petit peu quelle place pour la philosophie aujourd'hui ?
C'est l'un des sujets, effectivement, qui est forcément hérité du...
Voilà, c'était pour un petit peu focaliser, parce que sinon,
c'est bien,
si on commence à partir... Donc, quelle place pour la philosophie aujourd'hui ? Quelle fonction ? On peut prêter à la philosophie, si jamais la philosophie occupait une quelconque fonction.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
La volonté est-elle plus forte que tout ? La volonté est-elle plus forte que tout ?
Très bien. La volonté est-elle plus forte que tout ? Un cœur vaillant, rien d'impossible. Jacques.
Oui, monsieur. La solitude de l'humain dans l'univers. Est-ce qu'on est seul ou effectivement est-ce qu'on est vraiment seul ? Est-ce qu'on est vraiment persuadé ?
Alors, je crains effectivement. Je crains que la question ne soit pas philosophique. Pour le coup. Le philosophe, il n'a pas grand-chose à dire. Il a beaucoup de choses à dire et à penser sur la solitude, sur les limites de l'humain. Alors, après savoir si il y a d'autres formes de vie. Extraterrestre, consciente ou non consciente, c'est davantage une question d'ordre scientifique qui interroge la science,
et non une question philosophique.
Mais ça peut être une question, à savoir par contre, c'est la réflexion de Blaise Pascal, je ne rappelle même plus la citation de Pascal, enfin, peu importe, quand c'est de dire voilà, qu'est-ce que je fais, moi qui me semble être bien le seul vivant en l'univers. Mais savoir si on est seul ou...
Non, la question, c'est pas de savoir si on est seul. Voilà. Est-ce que l'humain se sent seul vis-à-vis de l'immensité ?
Enfin, voilà. Vous voyez, là, on entre plutôt en philosophie.
Oui.
C'est-à-dire, comment éprouvons-nous notre humanité face à l'immensité de l'univers, face à l'infinité de l'univers ?
Est-ce qu'on en fichit ? Est-ce qu'on en prend compte ou pas ? Parce que souvent, on en fichit.
Très juste, oui, très pertinent.
Non, c'est bon ça.
Okay. Donc, comment l'humanité vit-elle son statut au regard de l'univers ? Comment l'humanité vit-elle son statut, sa place dans l'univers ? Voilà. Oui, madame.
Moi, ma question, elle concerne en fait un constat d'aujourd'hui, c'est-à-dire que tout change, les valeurs, qui suis-je au jour cours, enfin, on voit bien qu'on est dans une espèce de truc flottant. Et donc, ma question, ça serait de se dire, est-ce que ce ne serait pas à nous de définir le sens de notre action au quotidien parce que cette chose-là ne viendra pas de l'extérieur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on s'intègre, qu'on se responsabilise pour dire, ben voilà, quel sens je donne à mon action. parce que c'est ça qui va impulser un changement dans ta vie, ce qui est absolument nécessaire dans les temps qui arrivent.
Action ou existence?
Disons que le sens à son existence, ça peut ramener à quelque chose de très très personnel. Alors que le sens de son action, c'est le collectif, ça concerne vraiment le collectif. C'est-à-dire que ce qu'on veut être et qui on veut être pour nous.
Donc quel sens donner à son action?
Voilà, quel sens donner à son action? Y a-t-il un sens à donner? Parce qu'en fait, je pense que c'est indispensable aujourd'hui de donner un sens à son action, sinon on continue à agir de façon routinière et répétitive, sans... c'est pas vivant, quoi. Enfin, voilà.
Très bien. Peut-être qu'on peut rappeler Marie-France.
Donc, on a 5 sujets en liste ce soir. Le premier, le corps. Le corps. Le souffle. Quelle place pour la philosophie aujourd'hui? Le troisième, la volonté est-elle plus forte que tout? Le quatrième, comment l'humanité vit-elle sa place dans l'univers? Et le cinquième, quel sens donner à nos actions?
Oui, monsieur. Bonsoir. Je voulais évoquer le sujet suivant, c'est... le changement climatique, quel impact peut avoir sur les liens entre les hommes, qu'est-ce que le changement climatique peut avoir comme impact sur le lien entre les hommes. Donc, comment la crise climatique, le changement climatique, bon, je pense qu'on peut parler de crise, comment la crise climatique impacte-t-elle, détermine-t-elle les relations entre les hommes? Détermine-t-elle les relations entre les hommes? Ou impacte-t-elle les relations entre les hommes? Est-ce que vous avez d'autres propositions? Non? Alors, on va peut-être procéder donc à un vote, un premier vote. Encore une fois, vous pouvez voter pour autant de propositions que vous souhaitez. La première, Marie-France. Le corps et l'esprit. Donc vous levez la main si vous souhaitez débattre de cette question. N'hésitez pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Deuxième question. Ah, voilà Laurence. On termine le vote et puis hop, comme ça... Quelle place pour la philosophie aujourd'hui? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Troisième question. La volonté est-elle plus forte que tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quatrième question. Comment l'humanité vit-elle sa place dans l'univers ou face à l'univers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Quel sens donner à nos actions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Comment le changement climatique ou la crise climatique impacte-t-il, refonte-t-il les relations entre les hommes et les femmes? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Quelle place pour la philosophie aujourd'hui ? Ben, je vous laisse en débattre avec Laurence. Et bon, quoi anime le café philo ? Juste pour les personnes qui viennent arriver avec moi, une fois sur deux.
Merci beaucoup, Nicolas, pour avoir pris la relève. Le temps que j'arrive de la source, c'était un peu encombré, excusez-moi. Alors, quelle place pour la philosophie aujourd'hui ? Qui a posé la question, du coup ? Eh bien, on va vous laisser la parole. Pourquoi une telle question ?
Alors, pourquoi une telle question ? Ben, parce qu'elle me laisse perplexe et j'ai envie d'une pensée à la fois personnelle et collective. Aujourd'hui, ça me semble intéressant quand on regarde aussi l'histoire, hein, l'histoire de la place de la philosophie dans le temps, hein, sur les derniers siècles. Hein, j'ai envie de remonter un peu à la période, évidemment, de la Grèce antique, où il y avait quand même une forme de cohabitation assez intéressante entre la religion, la philosophie, la science, parce qu'on trouvait des acteurs qui avaient une compétence mixte, hein, c'est-à-dire ils étaient capables, merci, on parle de Thalès, de Pythagore, d'Aristote ou de Platon, d'être à la fois scientifiques, mathématiciens et scientifiques, et philosophes. Et puis après, c'est vrai que la lecture que j'ai, c'est que on est resté sur une vision philosophique, je dirais, héritée d'Aristote, pour laisser la mainmise à... Alors, c'est plus que la religion, c'est à l'Église. Hein, à l'Église, pendant, évidemment, pendant un peu plus de 1000 ans. Et la philosophie, j'ai trouvé qu'elle a peu bougé pendant ce temps-là. Hein, les philosophes étaient plutôt des théologiens, et ça bougeait relativement peu. Pour après, finalement, ressortir, mais non pas grâce à la philosophie, plutôt grâce à la science. Hein, et j'ai le sentiment, mais c'est ma perception, que ce qui s'est passé après, quand on pense au siècle des Lumières, ça a quand même été tiré par la science, puisque la science est associée au siècle des Lumières aussi. Mais je pense avant, parce qu'il y a eu des physiciens, d'astrophysiciens, enfin, je pense à Copernic, à Kepler, hein, etc., et puis bien sûr à Galilée, hein, qui ont fait... quelque part reculer l'Église. Et en faisant reculer l'Église, j'ai l'impression qu'ils ont laissé la place aussi à la philosophie. Parce que j'ai l'impression, voilà, qu'elle a tenté toujours de s'exprimer. Enfin, voilà, c'est ma vue un petit peu historique du sujet.
Oui. Dans un entre-deux, en fait, on pourrait dire. Hein. Et donc, du coup, aujourd'hui, ça serait la question serait de savoir si la philosophie a encore sa place dans le monde dans lequel on vit.
Oui, et quelle place, et puis quelle place. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on y pense plutôt avec son rapport avec la politique. Hein. On a vu des sortes d'acteurs qui se présentent à des élections qui sont maintenant philosophes. Avant, on voyait avec finalement peu de succès. Hein. Mais c'est vrai que c'est compliqué, hein, c'est des sujets dont on parlait déjà il y a fort longtemps. Est-ce que pour être un bon politicien, il faut être philosophe ? Est-ce que c'est l'inverse ? Est-ce que le philosophe doit devenir politicien, etc., etc. Donc c'est ça qui m'intéresse, et surtout les avis, les réflexions de tout à chacun m'intéressent.
D'accord. Donc, oui, vous voulez prendre la parole ? J'ai l'impression, hein. On a changé de salle, et puis ça change les ondes.
Moi, j'entends ce que dit monsieur. Après, parmi vous contemporains, la philosophie, il vient aussi par l'éducation de ses aînés et par l'école. Alors moi, si on me pose une question, je n'ai pas l'impression qu'au niveau communautaire, la philosophie soit réimplantée comme dans le temps, dans la culture, l'époque des 4000 ans avant Jésus-Christ, 400 ans avant Jésus-Christ. C'était une philosophie, c'est une façon de vivre. celle-ci, moi, j'ai une filière technique, par exemple, parce qu'il n'y a pas de philo d'école, hein. Il y avait Maggio et tout ça, mais il n'y avait pas. Et donc, par nos jeunes, vu mon regard d'ancien, je ne suis pas sûr que ce qui ressort de l'éducation nationale, ce qui est fait par les précepteurs, soit de l'actualité, et que philosophie, à part dans les cercles, effectivement, qui sont un peu plus vertueux au niveau politique, surgissent, mais dans la basse classe, j'en vois pas en fait. Ouais. Sauf là, on dit tout ça ce soir, parce qu'on a cette démarche-là, mais on pourrait être 200, c'est pas le cas. Bon, après, il y a le foot, hein, mais. Voilà. Est-ce que la philosophie passe par le foot, en fait?
Y a-t-il une philosophie du foot?
Non, mais. Voilà. J'ai l'impression que la place qu'on veut mettre maintenant en institution est imposée un peu par l'éducation nationale, mais s'il n'y avait pas ça, il n'y a pas cette culture fondamentale, sociétale, vers la philosophie, comme il y a.
D'accord. Parce que la philosophie serait peut-être pas aujourd'hui un art de vie, mais plus un savoir académique. Ouais. Oui.
Justement, c'est ça qui serait le changement, c'est-à-dire qu'en partant d'un constat, c'est-à-dire que globalement, l'être humain ne développe pas planétairement, et donc du coup, la philosophie aurait sa place là, c'est-à-dire de se pencher vraiment sur cette question-là, et à ce moment-là, c'est beaucoup plus large, parce que ça peut poser la question de savoir qui sommes-nous réellement et qu'est-ce qu'on veut. Et ça pose vraiment une large question, justement à partir de ce qu'on est actuellement, qui est concerné.
Oui, d'accord. Philosophie peut-être comme savoir vivre, art de vivre, savoir vivre, questionnement sur soi.
Plus se voir un petit peu les mécanismes en jeu qui sont à l'origine de ce constat d'aujourd'hui. Mm-hmm. Parce qu'en fait, ça repose sur des modes de comportement qui sont répétitifs depuis des siècles et qui entraînent les mêmes causes, entraînant les mêmes effets, sont quand même à l'origine du monde d'aujourd'hui. Quoi. Mm-hmm. Donc de se poser vraiment des questions sur le mécanisme. Donc à ce moment-là, ça couvre la philosophie, la psychologie, tout.
C'est qui on est. C'est ça, tout.
Ouais, c'est vraiment qui on est.
Bonsoir. Cette question me gêne parce que je pense qu'il faudrait la préciser. D'abord, qu'est-ce que c'est que la philosophie? Je trouve qu'en soi, c'est pas quelque chose. C'est pas un objet très facile à saisir, à discerner. La seconde chose, c'est quelle classe, il faudrait se demander dans quel ensemble, par exemple, là, ça a été évoqué, est-ce que c'est dans l'enseignement? Et puis ensuite, la question laisse penser que la place de la philosophie a changé. Je trouve qu'on a beaucoup de difficultés, il me semble qu'il y a un biais des sources, en fait, dans ce qu'on sait de la philosophie, l'Égypte antique, la Grèce antique, le Moyen-Âge, des différentes époques. Il y a un biais de source qui fait que peut-être on majore en particulier la place de la philosophie à cette époque-là. Alors si l'ensemble est dans la vie quotidienne des gens, dans les sociétés, et du coup on se pose peut-être une. Bon, je trouve que la question, ça pose des sous-questions, quoi, pour essayer d'arriver vraiment à réfléchir à cette idée de place de la philosophie aujourd'hui, dans quoi, par rapport à quoi.
Oui.
Au niveau de. Est-ce que les philosophes, entre eux, en différentes écoles, ne sont pas non plus tirés la bourre pour ramener à eux la couverture? Ce qui fait que l'un faisant le mal à l'autre, ça s'étouffe. Je dis ça parce que je pense à une anecdote très particulière à l'époque d'Aristote, qui avait compris toute la physique et les maths, et en fait il avait faux partout. Et il n'y a qu'à un seul moment, il a raison dans sa vie, de ce que je connais, c'est avec Pythagore. Bon, il a fait des suicides d'école pythagoricienne, carrément, en une semaine. Ceux qui sont à l'école ou pas, je peux le raconter, mais.
Allez-y, oui.
Ceux qui ne savent pas, il a été voir Pythagore, il dit mais ton truc là, je comprends pas. Tu fais un pas de 1 sur un carré, et la diagonale, c'est la racine de. Donc 1 au carré plus 1 au carré, ça fait 2 au carré. Et 2 au carré, dans ton école, ça n'existe pas. Comment ça n'existe pas? Donc il a éteint l'école en une semaine. Donc là, on voit déjà qu'il y a une guerre, quelque part, de pensée. Enfin, qu'il y a une guerre de pensée, de philosophie. Et dans la version moderne, je pense que chacun, par orgueil et par peut-être un peu égoïste, n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, il veut tirer les couvertures à soi.
Alors du coup, je pense que ça pose quand même la question de savoir déjà ce qu'est la philosophie. Effectivement, comment allons-nous la définir ? En quoi la philosophie, elle se distingue de la théologie ? En quoi elle se distingue de la science ? C'est pas évident. Hein. Au XVIIe siècle, par exemple, on parle de philosophie naturelle pour la science physique ou autre. Et du coup, est-ce que la philosophie a à voir aussi avec quelque chose qu'on pourrait définir comme avoir raison ? Est-ce que être philosophe, c'est avoir raison ? Voilà. Donc, est-ce que la contradiction est une opposition violente ? Voilà. Et du coup, effectivement, quelle place pour la philosophie aujourd'hui ? Moi, ce que j'entends aussi dans la question, c'est est-ce que la philosophie a quelque chose à nous dire à l'heure d'aujourd'hui ? Voilà. Et si elle a quelque chose à nous dire, ben, qui va nous le dire ? Il est où le philosophe, celui qui pense et qui doit nous dire ce qu'il en est de la société aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a cette attente, voilà, autour de la philosophie ? Mais il me semble du coup que s'il y a cette attente, il faut revenir à la question de base, c'est qu'est-ce que la philosophie ? Et du coup, qu'est-ce que philosopher ? Et qu'est-ce que c'est qu'un philosophe ? C'est peut-être pas la même chose à chaque fois et on définit peut-être les termes de manière différente. Donc, qu'est-ce que philosopher ? Oui. Mais là.
Quand vous parlez d'attente, en fait, moi, à chaque présidentielle, notamment, quand il y a des débats politiques, je m'étonne assez. Enfin, mon attente, ça serait justement qu'il y ait. Beaucoup plus de philosophes en présence de politiciens. Parce que pour moi, un philosophe, c'est quelqu'un qui réfléchit et qui réfléchit pour le bien de tout le monde, en fait. Enfin, ça, c'est dans mes représentations.
Ouais.
Et qu'un discours assez neutre au niveau politique, parce qu'il va chercher le bien, en fait. Et je rajoute une petite anecdote quand on disait qu'en fait... j'ai une mère qui a 87 ans, donc qui a jamais fait d'études, hein, elle était boulangère. Et puis, depuis quelques années, régulièrement, je l'entends dire, quand elle a des soucis, notamment, ou que quelqu'un proche a des soucis, elle dit toujours, oui, bon, faut être philosophe. Alors moi, ça me fait sourire, parce qu'elle n'a jamais fait de philo de sa vie. C'est quand même quelqu'un qui est dans une réflexion, hein. Mais... elle, à mon avis, ce qu'elle entend par « faut être philosophe », c'est que bon, ça va quand même s'arranger, faut être sage, oui, effectivement, ça va s'arranger, quoi. Il y a un côté, voilà.
La mise à distance des choses.
Ah, en vieillissant, ouais. Voilà. Ouais. 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 Que quelque part, au fond, tout s'arrange.
Voilà. Ouais. C'est pas si grave que
pas
ça.
Si grave. Ouais.
Oui, quand vous dites... est-ce que philosopher, c'est avoir raison ? Je pense que non. Enfin, que le philosophe, il a la prétention, en fait, de ne pas répondre aux questions, mais de les poser de différentes façons, de faire avancer la réflexion. C'est pour ça que je pense que c'est nécessaire. Il y a des philosophes qui pensent la politique. Je ne sais pas si les philosophes pourraient gouverner, parce que pour gouverner, il faut prendre une option, il faut décider, il faut trancher. Et que le philosophe, a priori, pour moi, n'a pas vocation à trancher. Il émet des opinions à travers l'histoire, à travers les siècles. Chacun, quand on étudie à l'école, on dit Kant a dit telle chose, Pascal a dit telle chose, Descartes a dit telle chose.
La philosophie académique.
Sur Dieu, sur la vie, sur l'homme, sur tout un tas de choses, la peur, les émotions, peu importe. Mais finalement, aujourd'hui, ça n'est toujours pas tranché, toute cette question-là. Ça existe toujours. On se questionne toujours sur la liberté, sur la peur, sur les émotions, sur la colère, gouverner, etc. Mais ça n'est toujours pas tranché. Et la philosophie est perdue parce qu'il y a toujours ces questions qui se posent à l'humain, enfin, c'est ce que je pense,
ouais.
Et qui ne seront pas tranchées. Après, à partir de là, il faut organiser les sociétés. Mais c'est pas en prenant la vie peut-être des philosophes, en intégrant une réflexion philosophique. Mais je pense pas que les philosophes doivent rentrer dans la règle.
D'accord. Ouais. Peut-être remettre en cause la règle. Vous vouliez vous exprimer. Il me semble juste qu'il y avait monsieur. Ouais. Oui.
Effectivement, là, ce que j'entends, c'est que un philosophe au gouvernement, ça semble un peu paradoxal, puisque justement, il ne prend pas forcément de position tranchée, mais plutôt la remise en question, la réflexion, qui va amener à certaines choses, mais il faut qu'il soit complètement impartial. Donc, dans le sens, ça ne colle pas. Et donc, être philosophe, comme vous le disiez, comme dit votre mère, c'est un peu. Il parlait d'oquille, en fait, de se dire comment les choses par elles-mêmes peuvent évoluer ou avoir une vision qui est positive et. Je dirais quelque chose comme ça. Donc, philosopher, c'est selon moi, c'est se remettre en question et avoir une vision un peu de prendre de la hauteur et du recul sur les choses, remettre une pensée. Mm-hmm. Je rebondis sur la politique, parce que c'était une pensée. Il y a deux axes de réflexion dans la tête de l'humain. Enfin, il y a plus de deux axes, mais il y a la réflexion intellectuelle et la réflexion émotionnelle. Mm-hmm. Alors, la philosophie est-elle un travail émotionnel ou intellectuel? L'un va pas forcément sans l'autre. Mm-hmm. Mais effectivement, la maman, 88 ans, qui n'a pas fait d'études, elle a peut-être un QI qu'on ne connaît pas, mais elle n'a pas eu, effectivement, accès aux études. Mais ça n'empêche pas d'être philosophe et d'avoir un côté émotionnel qui permet de monter correctement vers des émotions et des réponses.
Ouais.
Alors quand je vois les gens qui sont plutôt qui étaient dans l'ermitage qui partaient seuls en philosophie, en réflexion avec la nature, qui revenaient des fois avec des axes qui étaient très forts,
ouais.
mais pas des questions, ils venaient avec des réponses. On se posait tout à l'heure la question, est-ce qu'on vient avec des questions ou des réponses? Ils venaient avec des réponses, comme Diogène à chaque fois que j'en parlais dans la fois, il sort de son tonneau, puis il vient parler, il a une réponse. Parce que poser une question, c'est plus facile. Mais voilà, donc c'était la démarche soit intellectuelle, soit émotionnelle. Qui remporte sur l'autre pour un philosophe?
Si. En fait, moi, ce que je voudrais évoquer, en fait, parce que, en fait, quelle est la place de la philosophie dans notre monde aujourd'hui, et puis quel est le rôle de l'action? Ces deux questions-là, en fait, pour moi, ça fait résonner. Le texte de Hannah Arendt sur la condition de l'homme moderne.
Ouais.
Et en fait, dans ce texte, en fait, je ne prétends pas avoir tout compris parce que c'est quand même un truc assez compliqué.
Il est dense. Hein.
Mais il y a cette idée que l'action créatrice est fondamentale pour que l'humain, en fait, se réalise, et qu'en fait, il faut arriver à distinguer ce qui est un production quasiment d'esclaves, et puis une action créatrice. Donc, là, elle met une valeur énorme sur cette question. Et puis, dans l'action, elle met en exergue, en fait, l'action politique aussi. Et donc, l'humain se réalise aussi sur la place publique, là, il y a un lien avec la philosophie grecque, au travers de cette action politique. Par contre, il y a donc là, ça pose un tas d'autres questions, certainement. Quelle action politique philosophe s'engage, ou est-ce que simplement il met de la distance, il analyse et il essaie de conseiller? Ça, il y a plein de choses qui se passent. Et voilà, pour moi, ça me ramène en fait à cette thématique, à cette ligne de
Action, politique, réflexion, à distinguer du travail, hein, chez Hannah Arendt, oui, c'est-à-dire de la production industrielle répétitive. Oui.
Est-ce que le philosophe, c'est pas justement celui qui questionne tout le temps et qui permet de garder vivant et entretenir le mystère de la vie, en fait, par un questionnement permanent? On n'a pas besoin forcément de réponse, mais quand le cerveau est en arrêt avec une question sans réponse, elle est extrêmement vivante et innove vraiment. Est-ce que c'est pas le rôle des philosophes?
Alors il y a un très beau texte d'Aristote qui dit philosophie. Hop, mon micro était en train de me lâcher. La philosophie, qu'est-ce que c'est? C'est déjà savoir s'étonner. Donc effectivement, l'étonnement devant l'existence, devant la vie, qui va entraîner le fait effectivement de savoir questionner, la mise en question. Oui.
Je rebondis sur cette dernière information parce que je me dis que philosopher, c'est aussi pour tout un chacun. Il y a effectivement une forme de philosophe qui pourrait avoir une action un peu différente vis-à-vis de la société, politiquement ou autre. Mais il y a aussi les individus. Alors, on en a parlé un petit peu avec l'éducation, mais l'idée étant de se dire et si tout le monde savait philosopher un petit peu plus. C'est-à-dire, je rebondis sur ce que vous allez dire, c'est penser par soi-même. C'est à la fois ne pas tout rejeter et ne pas tout prendre pour du bon pain. Donc, quelque part, un chemin intermédiaire qui est un chemin, j'ai envie de dire, j'ai une image de spirale, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête jamais. On continue à penser par soi-même. Ça permettrait aussi d'appréhender des sujets, on l'a vu avec le Covid, des sujets d'actualité avec un certain recul. Mm-hmm. Ouais. Mais ne pas tout prendre comme du bon pain. Et je pense, là, je rebondis toujours sur la place de la philosophie, c'est aussi la relation avec le savoir. Ne pas avoir à se questionner en permanence par rapport à un événement, un fait qui est un fait d'actualité. Mais tout à l'heure, on a parlé, et c'est vous aussi, vous en avez parlé de l'éducation. Moi, j'ai fait de la philosophie, mon année terminale où j'ai fait de la philosophie, j'ai pas compris grand chose, si ce n'est quasiment rien, parce que c'est vrai que c'est une approche très académique, avec une litanie d'acteurs, d'auteurs, etc. Je ne comprenais absolument rien. Et je m'étais dit au cours de l'année, mais si on se consacrait à peut-être quelques sujets, je sais pas, la morale, voilà, et pendant un trimestre, on faisait réfléchir les enfants, parce que je pense qu'il faut démarrer très jeune, les enfants sur la morale, et quand le cycle est terminé, eh bien le prof intervenait justement avec les auteurs, mais tout à fait à la fin, pour faire en sorte que les jeunes cerveaux apprennent à penser. Voilà.
Alors, du coup, je pense que ça peut nous permettre déjà de distinguer deux définitions du philosophe. Il y aurait le philosophe qui aurait le savoir académique, c'est-à-dire simplement engranger une certaine somme de connaissances, de références, et qui est capable de les reproduire. Et puis après, il y aurait l'esprit philosophique, voilà, où être philosophe, c'est peut-être savoir être à l'écoute, savoir penser, savoir questionner, savoir analyser une expérience, la partager. Je pense aussi qu'il y a le rapport au dialogue. Et effectivement, il n'y a peut-être pas là besoin de référence. C'est pourquoi l'expérience de la vie peut amener à être très philosophe en fin de vie, parce que il y a peut-être ce savoir-là de l'existence, que les choses, comme elles sont questionnables, on peut les mettre à distance, et donc elles sont peut-être pas aussi graves qu'on pourrait le penser de prime abord.
Je demandais si je pouvais prendre la parole.
Oui.
Je pense que la philosophie dans notre monde actuel souffre d'une image élitiste. Mm-hmm. Et on le voit avec le café philo, qu'on veut absolument ouvert à tous, mais qu'il y a beaucoup de gens, dès qu'on prononce le mot de philo, on s'est réservé aux intellectuels. C'est pas pour moi.
C'est ça.
En fait, je pense que la philosophie, c'est la pensée. L'injonction de Kant, pour moi, elle est toujours aussi valable. Penser par soi-même pour ne pas finir en troupeau.
Ouais.
Et je crois que si on arrivait à donner ce sens-là à la philosophie, on ferait un énorme pas. Alors je pense qu'effectivement l'éducation a un grand rôle à jouer là-dedans. Je pense que c'est dommage qu'on fasse de la philosophie qu'en terminale.
C'est fini, hein. Oui. Maintenant on peut en faire en première.
Ah, c'est un progrès. Moi j'ai eu la chance d'avoir un prof de philo en terminale, c'était il y a bien longtemps, fantastique, qui organisait des débats, pas des cafés philo, mais des débats. Comme je suis une très vieille dame, l'un des débats qu'il avait organisé, c'était un débat sur la peine de mort, parce qu'elle était encore en vigueur à cette époque-là.
Et je me suis dit, mais la philosophie, c'est génial si ça me permet d'apprendre à réfléchir pour prendre ensuite une position sur les questions de société aussi importantes. C'est un outil précieux. Et je pense qu'il y a vraiment un travail à faire au niveau des écoles pour que les jeunes prennent conscience qu'effectivement, c'est pour eux un outil merveilleux pour ensuite réfléchir à ce qu'ils veulent dans la société.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous. Bon, alors, pour moi, la philosophie, et d'ailleurs comme la sociologie, on pourrait dire aussi, c'est quelque chose qui serait vital aujourd'hui, même, je dirais, à ce point-là. Nécessaire parce que, en fait, la politique, elle a pris vraiment une place prépondérante dans les sociétés modernes. Aujourd'hui, il y a un peu ça, et voilà. Et donc la philosophie, comme la sociologie, si on voyait plus de philosophes et de sociologues, donc ça permettrait d'apaiser en quelque sorte la société, qui est vraiment, je trouve, de mon ressenti, tendu, très
tendu,
dans tous les domaines, dans tous les... Voilà. Donc pour un apaisement, et voilà, par exemple, une solution qui pourrait créer dans la société, c'est de créer une assemblée de philosophes et sociologues, par exemple, et qui permettrait de travailler en commun avec les politiciens et de pouvoir pousser, on va dire, trouver une écoute également.
Oui.
Mais voilà, que la philosophie et la sociologie soient vraiment actives dans la société, ce serait une bonne chose. Donc effectivement, la place de la philosophie aujourd'hui est évidente.
Centrale.
Sinon, on dirige vers le mur avec les décisions qui sont par la politique.
C'est-à-dire qu'il y a un esprit salvateur de la philosophie. La philosophie sauve.
Sauve, et puis ça permet d'apaiser aussi les esprits également.
Ouais.
Ça permet que chacun puisse ne pas réagir sur le vif plus sereinement. Aujourd'hui, les populations sont souvent par pulsion, pulsionnelle, et donc plus que l'esprit s'intéresse de sa pensée, c'est ça. Voilà, ça.
Prendre le temps de la réflexion.
Voilà, c'est ça.
Voilà, se poser pour prendre le temps de la réflexion.
Après, c'est vrai qu'on est plus dans les médias également, c'est dans vos cas.
Voilà.
Pardon, il fait mon plaisir, mais quelques-uns, mais bon.
Oui,
qui essaye. Moi, j'ai une question pour vous, c'est pour les vieux. Moi, j'en ai pas fait. Alors, on est en train, ça me vient comme ça, en train de parler de philosophie avec réservé et anecdotisme. Par contre, dans ce que j'ai vu autour de moi, à part certains élèves qui s'en sortent mieux, ils ont de bonnes notes. De toute façon, en général, quelqu'un dit tout à l'heure, c'est vous, monsieur, j'ai rien compris de la philo. Et quand on commence à l'école à nous ancrer de ce qu'on a appris, parce que moi je ne l'ai pas fait, vers les pensées philosophiques individuelles, on se retrouve avec des deux, des trois, parce qu'on n'est pas dans le courant de pensée spatiale qui a écrit la bonne parole et qui doit être référent. On n'a pas écrit comme Aristote pensait, parce qu'il est référent. On ne peut pas avoir, à l'heure actuelle, j'ai l'impression, de la part du prof, un retour philosophique disons, qui amènerait à avoir une pensée à soi. Il faut absolument faire référence à quelque chose. Quand on fait un devoir, si on n'a pas cité au moins 15 bouquins et 3 auteurs, on l'a dans le baba. Alors, il y a un pied de nez qui a été fait, c'est dans les banlieues, avec le rap. On aime, on n'aime pas. Il y a des raps très agressifs, tout ça. Il y a des gens qui, ça parle rap, s'en sortent tout seuls, ils n'ont pas de philo. Et puis on dit, ah, ils ont de bonnes idées, c'est vachement bien. Et ça fait aux jeunes. C'est une autre approche. Alors moi, je pose la question, pourquoi, effectivement, on se prend toujours des bananes quand on n'a pas la même pensée que le prof qui donne parce que lui-même, il n'a pas. Les philosophes, tout le monde, il y a des philosophes à l'heure actuelle, hein, il y a des gens qui ont 20 ans, mais tout était déjà inventé. Il y avait 400 ans avant Jésus-Christ, c'était déjà inventé. Qu'est-ce qu'idée nouvelle l'humain peut apporter? À part retravailler en disant, moi, j'ai 20 ans, je sais, je suis pas un Highlander, je vais mourir, je reviens pas.
Ouais.
Alors pourquoi, effectivement, il y a toujours ces préférences ancestrale, à ce qu'il doit être la bonne pensée que le prof donne et qu'on ne peut pas avoir une grammaire. Je
suis pas convaincue de ça. Je crois qu'il y a beaucoup aussi de fausses images hein, sur le cours de philo et puis les épreuves de philo. Moi, j'entends souvent dire, ouais, mais madame, la philo, après tout, il y a eu une année, un sujet, c'était qu'est-ce que le risque, et puis il y a un élève qui a répondu, le risque, c'est ça, point d'exclamation, et il a le vin. Donc, je réponds, non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, les références, en fait, elles aident à penser. Du coup, la philosophie, qu'est-ce que c'est? Si c'est penser par soi-même, ben, la pensée, elle s'exerce. C'est tout le problème du fait de dire, effectivement, qu'à partir du moment où on est un être pensant, on pense par soi-même. Et puis, en même temps, le fait qu'il y a un exercice de la pensée. Et c'est cet exercice de la pensée, c'est cette logique de la pensée qui permet justement de se mettre à distance avec ses propres opinions, ses propres certitudes, ses propres évidences, et prendre le temps de comprendre comment un autre que moi pense, que ce soit Pascal, Aristote ou Kant, peu importe, comment un autre que moi pense, ça me contraint aussi du coup à me calmer moi-même dans ma propre réflexion qui peut être encore une fois inscrite au sceau de la certitude et donc apprendre à se distancier d'avec sa propre pensée, c'est l'exercice premier qui permet de commencer à tenter de penser par soi-même, parce que je crois qu'il n'y a rien de plus dur que de penser par soi-même. On confond souvent pensée et conscience. J'ai conscience de quelque chose, donc je pense. Ben non. C'est pourquoi la pensée, quand est-ce qu'on commence à penser? Ben souvent quand on commence à penser contre soi. C'est-à-dire, voilà, j'ai cette certitude. Est-ce que je peux penser autrement? Est-ce qu'on peut penser autrement les questions? Voilà. Est-ce qu'on peut voir les choses différemment? Et ça, c'est difficile. Et ça, c'est la grande force du collectif. C'est la grande force de l'écoute. C'est-à-dire, tout d'un coup, je viens et puis, hop, quelqu'un ne pense pas du tout comme moi. Voilà. Et pourquoi? Quelles sont ses raisons? D'où parle-t-il? Quelles sont ses expériences de vie? Qu'est-ce qui lui permet de remettre en cause ce que moi, je pensais être des postulats inébranlables? Et c'est à partir de ce moment-là qu'on accepte. Il y a quelque chose dans le penser par soi-même de fondamentalement déstabilisant. Ça ébranle un individu parce que, oui, il faut accepter, remettre en cause une idée, c'est se remettre en cause aussi pour soi-même. Pas facile.
Alors, je me permets une petite parenthèse, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure sur la démarche philosophique, pour moi, c'est vraiment très parallèle à la démarche scientifique. En fait, il y a une question du bagage scientifique ou bagage philosophique qui peut être nécessaire et avec lequel on travaille, mais la démarche de l'individu, de la personne, dans sa réflexion, dans sa mise à distance, dans la construction d'une façon de penser ou d'un modèle, elle est vraiment très proche de ce que fait le philosophe. Et je trouve que insister sur ce parallélisme par rapport à des jeunes, des enfants qui sont au lycée actuellement et que l'on encourage à devenir souvent des scientifiques, en fait, pour moi, c'est quelque part très proche de devenir, en fait, de s'intéresser à la philosophie.
Mais je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a toujours eu un lien très fort entre science et philosophie, ce qu'on disait au départ.
En fait, aujourd'hui, on manipule mal le langage. En fait, maintenant, les gens, il y a plus cette importance dans le verbe qui est utilisé. Donc, le dialogue philosophique devient très, très difficile. D'abord parce que les gens se comprennent beaucoup plus rapidement qu'à certains moments. Et ensuite, parce qu'on dit un peu... On passe pas nos mots. Les mots n'ont pas la même importance qu'à une certaine époque. On dit... Par contre, il y a autre chose qui est en train de se dessiner. Et peut-être que les philosophes ont leur place là-dedans. C'est que maintenant, c'est l'état d'esprit qui compte. C'est-à-dire que quand on a une discussion qui apparemment est conflictuelle parce qu'on n'a pas les mêmes idées, etc., quand on se branche sur l'état d'esprit dans lequel la personne est en face et le nôtre, on se rend compte qu'il n'y a pas de conflit à ce niveau-là. Et donc ça change complètement la donne, en fait. il n'y a plus cette espèce de joute intellectuelle, parce qu'on va à l'essentiel, on va dans l'essence. Et quand on sert l'état d'esprit, les choses sont complètement différentes. Parce qu'on se rend compte qu'elles vont ensemble.
Il n'y a plus débat, il y a dialogue.
Oui, en fait, c'est là-dessus que je voulais parler. C'est-à-dire que la question étant la philosophie aujourd'hui, je pense que ce serait peut-être un moyen de remettre du dialogue, mais du dialogue au sens de l'échange, de l'écoute et de l'argumentation. Parce qu'on entend des débats, soit disant, où il n'y a pas de débat. En fait, chacun reste sur sa position et donc ne remet pas en question sa pensée. Parce que pour confronter sa pensée propre, à quelqu'un, déjà à soi-même, se questionner sur est-ce qu'on est légitime dans cette pensée, il faut effectivement s'ouvrir à d'autres choses, alors qu'on assiste actuellement, compris à l'Assemblée nationale, à des débats qui n'en sont pas, c'est-à-dire que chacun s'invective, s'insulte, et on ne va pas au fond de ce que l'on peut vraiment exprimer, et on ne développe pas d'arguments. C'est juste les arguments qui permettent en fait d'être d'accord ou pas d'accord, parce qu'on oppose d'autres arguments. Ça, c'est le dialogue, et actuellement, je pense que la philosophie, si on insistait un petit peu, qui est des philosophes, qui conseillent les politiques, etc., ce serait peut-être pour permettre de remettre du dialogue et du questionnement dans les choses, et sortir des certitudes, chacun ses certitudes.
Je voulais juste dire pourquoi je suis là. Aujourd'hui, puis à la radio, il y a un grand temps, j'ai écouté une émission, je suis sur Arte ou un machin comme ça, où c'était des enfants de 9-10 ans qui, avec un prof de philo, il y avait une dizaine d'enfants, discutaient, philosophaient à cet âge-là, et avec des idées simples mais surprenantes, qui était reprise et expliquée comme vous faites, vous, retraduire ce qu'on dit avec plus ou moins de bonheur. Et c'est pour ça que je suis là. Parce que je me suis dit, si un enfant de 10 ans peut philosopher, pourquoi pas une vieille dame comme moi à la retraite, pourrait pas écouter la philo et en apprendre quelque chose. Voilà, c'est tout bête.
Alors, je ne voulais pas parler de cela, mais j'ai envie de rebondir parce que c'est un vrai sujet. Est-ce que ça ne devrait pas être abordé bien plus jeune? Je pense qu'il y aurait des choses extrêmement intéressantes dans le développement de la pensée, surtout de la manière de penser des jeunes quand ils vont grandir par la suite. Je voulais rebondir sur le parallélisme entre science et... Je pense que vous avez raison, il y a une forme de parallélisme. Monsieur a parlé de bagage, je trouve que c'est intéressant comme notion. Avec néanmoins une structuration, j'allais dire, une hiérarchie très différente, puisque en science, on s'appuie sur des acquis pour aller de plus en plus loin. La vérité scientifique, 100 ans après, n'est pas du tout la même, et elle s'est appuyée sur la vérité 100 ans avant. Alors qu'il y a cette forme de porte ouverte à la philosophie, dans la philosophie, et j'ai écouté votre réponse par rapport aux classes de terminale, et c'est vrai, une forme peut-être d'impétence à aller chercher des auteurs et à les citer, mais finalement, dans sa propre réflexion, quand on développe sa propre pensée, on peut aller chercher un auteur qui n'a pas, j'aime pas le terme, mais qui n'a pas moins raison 300 ans avant un autre philosophe. C'est peut-être la différence que je mettrais entre la philosophie et la science. Il n'y a pas de hiérarchie, on ne monte pas sur le pont du philosophe pour aller voir plus loin et puis aller toucher la philosophie d'aujourd'hui. Je veux dire, celle de Spinoza est tout aussi qu'à son époque. Et encore, il avait du mal à son époque. Mais je pense que l'interaction est intéressante parce qu'il y a des vrais... Je suis désolé pour le micro, mais il y a des mains tendues. Il y a des mains tendues entre les deux disciplines qui me semblent intéressantes. J'illustrerai avec un sujet d'actualité, qui est un sujet qui a quand même scientifiquement une centaine d'années, c'est la physique quantique. Vous savez qu'on a un chercheur français qui vient d'être récompensé par le Nobel à l'aspect. Et bon, la physique quantique, c'est, pour parler là, c'est quelque chose de totalement contre-intuitif, c'est extrêmement complexe à comprendre. avec des propriétés très, très particulières d'intrication, de superposition, enfin de particules qui peuvent avoir finalement des positions, deux positions en même temps, qu'on ne peut pas appréhender. Et ce que j'aime bien chez les scientifiques, c'est qu'ils disent, après 100 ans, bon, évidemment, il y a des ingénieurs qui vont utiliser le savoir des physiciens pour développer les produits. Hein. On considère aujourd'hui que à peu près un tiers du PIB mondial s'appuie sur la physique quantique. Donc on manie très bien, on sait comment ça fonctionne, mais les physiciens disent, un jour, les philosophes nous diront pourquoi ça fonctionne comme ça. Et je trouve ça intéressant comme main tendue.
Et ce qui est fascinant, c'est la manière par laquelle... Alors, du coup, moi, j'hésite entre la cause et l'effet. C'est-à-dire, est-ce que la philosophie nous permet, par un pur exercice de pensée, une remise en cause de nos propres modèles logiques qui rend possible la pensée même de la physique quantique? Ou est-ce que c'est la physique quantique qui nous contraint à repenser la logique? Et voilà, je pense, et c'est là où je me dis, en fait, on est à la même, enfin, c'est la même chose qu'au tout début chez les Grecs. Voilà. On est dans ce mouvement pendulaire là entre pensée et science. Voilà, pas science sans pensée, quoi. Et peut-être pas de pensée sans science. Ouais. Oui.
Pour rebondir sur la philosophie, enfin la différence entre les scientifiques et les philosophes, à ce parallèle toujours, autant les sciences continuent d'évoluer et font continuer d'évoluer le raisonnement, que j'ai l'impression qu'en philosophie, on est toujours, moi je me sens toujours très proche de Socrate et de sa méiotique, et aujourd'hui toutes les personnes qui se remettent en question, qui réfléchissent sur l'existence, sur la sérénité, sur la vie, sur comment être heureux sur Terre, c'est quand même ça. Et aujourd'hui, on lit d'Eckhart Tolle, vivre le moment présent. Est-ce que c'est pas aussi un peu de la philo, tout ça? Et la maïotique, on n'a jamais été autant en psychothérapie, en psychanalyse, etc., etc. C'est Socrate. Toujours et encore. Et encore.
Oui. Dans la hiérarchie, je suis en train de penser entre le stoïcisme, après l'épicurisme, après l'hédonisme, après l'ataraxisme. Il y a quand même une hiérarchie qui s'est établie parce que chacun a ramené sa petite pierre à l'édifice en disant oui, mais stoïque c'est bien, mais ça empêche d'être heureux. Après, l'autre dit oui, mais moi je suis épicurien, il faut oublier le stoïcisme, sinon je ne peux pas être heureux. Et puis après, on a l'ataraxisme en disant je trouve bien être un petit peu sceptique, sinon on go tout. Bah, ils sont quand même tirés d'abord, hein, même si c'était en tension. Hein.
Oui, mais du coup, je ne sais pas si on peut les hiérarchiser.
Ah, j'ai pas dit que j'hiérarchise.
Ouais, voilà, c'est un peu l'idée de hiérarchie sur la science. C'est-à-dire, la science, elle évolue, elle progresse. Alors qu'en philosophie, oui, on se remet en cause, on crée de nouvelles écoles, on travaille sur les failles de l'une. Pour voilà, et puis au final on peut aussi y revenir, c'est-à-dire après tout voilà, Socrate parle toujours, Kant au 18e parle toujours, Michel Foucault, moi je trouve aussi au 20e, les philosophes engagés du 20e, Jean-Paul Sartre aussi, hein, sont des voilà, et puis en même temps c'est vrai qu'on a l'impression comme ça, moi la question des fois que je me pose, est-ce qu'il n'y a pas une atemporalité de la philosophie? C'est-à-dire on a des systèmes qui sont historiquement datés, puis en même temps on peut y évoluer, on peut trouver la réponse au 4e siècle avant Jésus-Christ, une interrogation qui nous plaît au 18e, et puis tout d'un coup un changement de vie. Pouf, j'étais épicurien, bah maintenant je deviens stoïcien. Voilà, ça change comme ça. Et comme si on pouvait se nourrir de pensées diverses qui peuvent paraître contradictoires, qu'ils sont très certainement, mais quand on les vit ou quand on les lit, on n'a pas cette impression de contradiction interne, en fait. Ouais. Donc du coup, la philosophie, voilà, la temporalité de la philosophie. Ouais.
je suis en cursus technique, donc je n'ai pas fait de philo, mais ça me fait penser à tous ces, ces pistes de réflexion qu'on propose, qu'on prend, qu'on ne prend pas, à me parler avec la musique, où chaque courant philosophique va correspondre à une note de musique, et chacun va prendre sa, son courant, sa note, va l'assembler et en faire une mélodie qui correspondra un peu à sa vie le long de son existence. Donc, est-ce que ça pourrait correspondre à ça? Sachant qu'on évolue, qu'en fonction, il y a l'acquis, il y a le, l'existence avec l'expérience, et que forcément, on n'aura pas le même courant de philosophie à 20 ans qu'on en aura à 80.
Juste intervenir pour dire que oui, Socrate, il est inoubliable, et on y retourne toujours. Mais il y a aussi des philosophes contemporains qui travaillent sur des questions contemporaines qui n'existaient pas du temps de Socrate. Je pense par exemple à quelqu'un comme Bernard Singer qui a énormément travaillé sur les nouvelles technologies. Et personnellement, je trouve un philosophe très éclairant.
Oui, c'est normal que ça évolue parce que la vérité n'est pas absolue, donc la philosophie elle s'adapte à cette mouvance de la vérité suivant les siècles et suivant les époques. C'est quelque chose de normal. Et je voulais rebondir sur le fait des notes de musique avec les différents courants. Et les courants ne sont pas figés alors qu'une note elle est donnée. C'est quand même une grosse différence. Les courants ne sont pas figés, ils sont très dynamiques. Enfin, c'est la définition de la philosophie. La philosophie c'est quelque chose de dynamique qui va s'adapter, qui est intemporel.
Mais la musique aussi. La musique, il y a cette fluidité. Il y a...
Les notes, elles sont données. Oui, on va créer avec les notes. Ouais. Il y a une fluidité, évidemment.
Mais c'est vrai qu'on peut aussi peut-être penser aux courants musicaux. Hein? On peut aimer le rap et Beethoven. Voilà. Lully. Et puis... Donc, voilà, exactement.
Parce que pour moi, aujourd'hui, on a posé cette question, quelle est la place de philosophie aujourd'hui? C'est parce qu'on a besoin d'explications. Toujours. Et aussi, la philosophie, ça peut être généralisation. C'est-à-dire, le pensée de philosophie, c'est pas n'importe quoi. Il y a beaucoup d'écoles et beaucoup de courants de philosophie. Après, il y a les différentes personnes, on va suivre les différents courants, on a choisi. Après, aujourd'hui, on réfléchit cette question, c'est parce qu'on pensait notre système. Chaque pensée, chaque courant de philosophie, c'est un système complet. Si on réfléchit cette question, c'est justement un besoin de philosophie pour expliquer notre état, notre système, si c'est bon ou pas, est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut avancer. Et pour le, en plus, pour la philosophie et la science, la relation entre la philosophie et la science, je pense que la philosophie, c'est la base de la science. En plus, surtout la physique. Le physique, c'est par exemple, la physique, c'est basé par la mathématique. La mathématique, c'est la langue entre la nature et l'humain. On crée la mathématique pour discuter avec la nature. Après, physique, c'est la plupart de physique, c'est métaphysique, c'est-à-dire. La science, c'est pas le problème de correct ou pas correct, c'est on trouvait une façon de découvrir la réalité, mais on n'a jamais capable de bien maîtriser la réalité, la nature. Le pouvoir de nature, c'est énormément, les humains ne peuvent pas tout maîtriser. Alors on crée la langue mathématique pour plus proche de la réalité. Après, c'est un problème de philosophie et de politique. Je pense que la philosophie, c'était choisi par la politique. Surtout en Chine, par exemple, la pensée de Confucius, c'est la pensée qui est choisie par l'Empire. Pendant toute tout au long de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Après, il y avait l'Empire qui est tué, les d'autres pensées, d'autres philosophies qui n'est pas bon pour la politique, la solitude. Alors, ça c'est très clair, un exemple aussi. La philosophie, c'est d'être choisi, d'être choisi par le gouvernement, le pouvoir. Mais aussi, il y a le penser, parce que ça c'est général. Alors, on est encore conservé beaucoup de pensées. Mais c'est juste une petite partie, mais c'est très important aussi. Merci.
Du coup, il me semble que ce qui est intéressant là, c'est quelle place pour la philosophie aujourd'hui. La notion de place est extraordinaire, quoi. C'est-à-dire la place, on a presque le sentiment qu'on est sur la place publique. Et donc, la philosophie, est-ce que c'est une activité collective qui fait qu'effectivement, à un moment donné, un État peut se réclamer d'une philosophie, la philosophie de Confucius pour la Chine, par exemple, et donc effectivement organiser sa vie politique, sociale, idéologique autour d'une philosophie d'État. Ou est-ce que philosopher, ou la philosophie, c'est un acte individuel, et j'irais presque plus loin, un acte intime. Voilà, parce que le travail de lecture, quand on étudie un auteur, il faut le lire. Et le travail de lecture, c'est un travail solitaire. Voilà, c'est un travail seul. C'est soit avec le texte, c'est soit avec sa compréhension, c'est soit avec ses questionnements. C'est, voilà. Donc, du coup, on a l'individualité, j'ai envie de dire, la plus à la fois close sur elle-même, parce que on pense pas dans le bruit, parce qu'il faut du temps pour penser. On peut pas lire un livre de philosophie en 3 minutes, le poser, répondre au téléphone, le reprendre, c'est pas possible. Donc voilà, il faut du temps, il faut du silence, il faut une espèce de recueillement. Et puis en même temps, il y a ce rapport à l'espace public, à l'action. Disait Anna Arendt, mais aussi le parler politique, parler ensemble, bâtir un monde commun ensemble. Donc ça devient intéressant du coup. Est-ce que une philosophie peut devenir une philosophie d'État? Alors, on va vous donner le micro, oui.
Reste dynamique, souple, évolutif, parce que sinon ça devient totalitaire. Donc on remplace un petit peu dans.
Alors en même temps, ce que je me dis, c'est que on dit très souvent à l'étranger, hein, parce que nous on s'en rend pas compte, on se rend jamais compte de ce qui nous concerne, que les Français sont cartésiens. Alors, Descartes.
Peut-être, oui, peut-être.
Est-ce qu'on n'est pas rationnel? Est-ce que. Voilà.
Vous dites, ça fait rebondir comme ça, j'ai l'impression aussi que parfois la philosophie nous enferme dans certaines cases. J'ai eu un moment dans ma vie, effectivement, je disais souvent, oui, je suis cartésienne parce que j'avais fait des études scientifiques, etc. Et puis au même moment, j'ai parlé avec une proche, je me définissais, et puis au bout d'un moment, elle me dit, oh, oui, mais toi, t'es épicurienne. Ah, donc du statut de cartésienne, tu me faisais cartésienne. En 2 minutes, je suis passée à épicurienne, donc ça m'a permis de réfléchir, etc. Et pour finir, maintenant, la place de la philo, je dirais que ça m'aide à me définir, en fait. Et du coup, savoir un petit peu ce que je veux, en fait.
Se clarifier soi-même.
Se clarifier soi-même.
Alors, ça me fait penser à la suite logique là. Mon frère a fait des études en docteur en biologie moléculaire, donc ça a un niveau. Et quand il était en terminalité,
disait à mon père, de toute manière, c'était, oui, c'est une émotion, il n'y a pas de hasard, pas machin, tout ça. Mon père, il calmait, mais maman, il me disait, mais si jamais tu fais des études et tu arrives, je pense que tu feras comme tous ceux qui arrivent en haut, ils vont lever les yeux au ciel et ils diront, on se demande. Et là, du coup, on passe effectivement du côté technique, avec des choses établies par des gens comme Darwin, je sais que c'est un philosophe, Darwin, c'est pas un philosophe, mais peut-être je pourrais vous classer, à avoir sa propre réflexion. Et donc on devient cartésien, et d'un seul coup, on devient d'un seul coup plus en réflexion interne, on dirait, on découvre des choses, mais on se demande.
On parle tous ensemble aujourd'hui de la philosophie aujourd'hui, et on ne parle pas des philosophes d'aujourd'hui. Or, tous nos anciens dont on parle, hein, depuis des siècles et des siècles, Kant c'était la raison, Socrate était ça, etc., ils avaient pratiquement, moi Jean-Paul Sartre c'est la mauvaise foi, bon, je n'aimais pas trop, mais bon, c'était mon avis. Aujourd'hui, je suis incapable de donner les idées premières de nos philosophes d'aujourd'hui. Alors qu'on en a quand même 4 ou 5 qui sont bien connus et qui passent souvent à la télé, mais c'est comme s'ils n'avaient pas une vraie place au titre de philosophe. Enfin, de mon point de vue, hein. Je suis peut-être un peu ignorante là-dessus, et si vous pouvez m'éclairer, avec plaisir.
Ben est-ce que justement être philosophe, c'est de ne pas avoir un positionnement figé, d'être ouvert un peu sur tout et... Donc la philosophie en fait évolue avec l'évolution de l'homme et son environnement. Les questions existentielles il y a 2000 ans ne sont pas exactement les mêmes aujourd'hui. Donc la philosophie évolue. Et à cela, j'ai envie de mettre un peu les pieds en place, c'est qu'il y a de la philosophie à l'école, certes. Alors, elle est peut-être un peu restreinte sur. Il faut mettre le nez dans un livre, ça donne une pensée, et puis après, retranscrire cette pensée. Elle est peut-être limitée pour laisser un peu l'être humain rêver quelque part, mais il n'y a pas forcément volonté d'aller beaucoup plus loin que ça, parce que c'est. Voilà, la société forme quand même la majorité des terres, des notions. Et donc, trop philosopher fait sortir du rang. Je ne suis pas certain que ça convienne au gouvernement ou à la société.
Penser, c'est dangereux. C'est politiquement dangereux, c'est superflu.
J'avais envie d'avoir une petite incidente. Si vous voulez voir un philosophe d'aujourd'hui, venez ici le 28 février.
Oui, le 28 février.
Vous rencontrerez un philosophe contemporain.
Daniel Robert. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est à la fois philosophe, féru de psychanalyse. Voilà, il a une connaissance très étendue en sociologie. Donc cette logique un peu de la transversalité dont on avait parlé, voilà, il l'incarne parfaitement.
Alors, il y a un philosophe qui m'a touché, c'est un philosophe plutôt dans la destruction et la déconstruction aussi. Donc, c'est Nietzsche, voilà. Et notamment, sa difficulté, on va dire, son christianisme notamment, qui m'a permis en fait d'avoir une nouvelle approche, une nouvelle lecture, et puis un intéressement également sur le Nouveau Testament, par exemple. Permis d'effacer toutes ces idées reçues et tout ce qui a été construit sur 2000 ans en fait, par rapport à la chrétienté, etc. Qui m'ont amélioré sur la morale, etc. Et puis, donc, j'ai pas lu l'œuvre entière, notamment sur le sujet traité par rapport au sujet, mais c'est un philosophe notamment qui m'a saisi, qui m'a touché, qui m'a même surpris. Et donc, qui m'a permis évidemment d'avoir un lien plus proche avec le personnage, en tout cas, de sa parole également. Voilà, le lien, en tout cas, secré entre ce qui est plus vrai. Voilà. Parce que c'est quand même un personnage également important, même dans l'histoire de notre société occidentale, même outre.
Mais serait heureux, Nietzsche. Hein,
lui qui s'intitulait philosophe, qui philosophait à coups de marteau parce qu'il voulait tout déconstruire, il serait content. Hein.
Un bel hommage que vous lui rendez.
Voilà,
hein.
La déconstruction, c'est quelque chose que
Oui, il y a un peu de problème dans la, enfin, qui est la discussion. Là. Je ne sais plus qui a dit les philosophies est un sport de combat, il me semble que ça a quelque chose. Mais en fait, je pense que la philosophie aujourd'hui a une responsabilité par rapport à la société dans notre monde aujourd'hui. Actuellement, on voit une involution, des situations de blocage, tant en France qu'aux États-Unis, qu'en Angleterre aussi d'ailleurs, que dans pas mal de pays. Moi, je ne sais plus les informations, enfin, l'information un peu internationale,
oui.
La Russie aussi, bien. Et en fait, on est dans des situations de manipulation de masse, de diffusion de fake news, de fausses informations, de désinformation, manipulation des masses, etc., abrutissement des populations. Et en fait, par rapport à ça, la philosophie a un rôle à jouer. Et on en a vraiment besoin, je crois. D'accord, si quelque part c'est une démarche intime pour commencer, mais à un moment ou à un autre, il faut se réveiller.
Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Ouais, au sens vraiment que lui donner à la reine. Ouais.
En fait, c'était le sujet que j'avais proposé tout à l'heure. C'est-à-dire quel sens donner à notre action aujourd'hui.
Ouais.
Parce qu'en fait, le salut ne viendra pas de l'extérieur au niveau de la régie. C'est à nous de le décider. Et de voir comment. C'est ça. Et c'est vraiment l'enjeu de demain. Quel sens donner à notre action. C'est-à-dire nos actions quotidiennes, hein, ça se situe dans les toutes petites choses de la vie. C'est-à-dire dans quel état d'esprit on est fait. Est-ce qu'on réhabilite une forme de sacré. C'est-à-dire qu'on constate qu'en fait, toute action est sacrée, quoi qu'elle soit. Et donc, du coup, ça va nous forcer à faire un tri et à se poser vraiment des questions. C'est-à-dire contacter quelque chose qui nous dépasse, sans le connaître, mais en supposant qu'il existe. Et là, ça va plus vraiment quelque chose de complètement nouveau. Il faut décider, il faut choisir.
Donc, partir à la recherche de la transcendance.
Ben, une forme, oui, parce que c'est on va y être contraint, de toute façon. Parce que là, on est arrivé au bout du bout des spéculations de notre petit mental, quoi.
Est-ce qu'on pourrait lier ça à Nietzsche avec le fait d'aller chercher la valeur des valeurs? Voilà, afin de faire le tri justement dans nos actions. Oui?
Alors justement, est-ce que la philosophie c'est que douceur ou
forme de contact?
Parce que je suis en train de penser aux sectes avec des gourous là, qui dirigent et qui demandent de l'ordre de leur pensée philosophique, tout le monde adhère, un suicide collectif. Donc il y a danger quand même. Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle à la bonne pensée philosophique, c'est doux, ça accompagne, ça donne des réflexions humaines, mais voilà, on parle de la Chine, effectivement, avec Confucius. Moi, je m'interroge là-dessus. Hein. Est-ce que.
Alors, du coup, peut-être qu'il
nous. Avec la philo.
Voilà, peut-être savoir quel rapport la philosophie entretiendrait avec l'idéologie, par exemple. Ouais. Est-ce qu'une pensée philosophique peut être idéologique?
Je vais rebondir là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on distingue ce qui peut se passer dans l'idéologie, voire précisément dans des sectes, avec le fait d'inculquer une forme, on raconte des belles histoires, une forme de vérité. Le philosophe, aujourd'hui, même s'il n'est pas forcément visible ou entendable par tout le public, il n'est pas là pour dire une vérité. Il est là aussi pour... faire que chacun se pose des questions et apprenne à réfléchir. Donc, penser par soi-même et recevoir une pseudo-vérité, pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Et je rebondis sur ce qui a été dit à deux reprises tout à l'heure. C'est vrai qu'on est dans un monde médiatique où il y a des informations en continu. Je pense qu'il y a maintenant une grande partie du public, des citoyens, qui ne fait plus la différence. Et c'est-à-dire qu'ils ne pensent plus qu'ils reçoivent par l'oreille une information qui est tout de suite prémâchée, jugée. Et c'est la vérité. Donc on voit bien qu'on a perdu pied du côté
la démarche scientifique, hein, c'est-à-dire qu'il y a, bah, d'ailleurs, on le voit au niveau scolaire, hein, avec le recul des mathématiques, etc. Donc, on ne sait même plus analyser les chiffres de vaccination Covid, mais c'était affligeant d'écouter ce qu'on pouvait écouter ou lire sur des journaux de réflexion, mais vraiment par manque de connaissances scientifiques. Et de la même façon, je pense qu'on n'a pas cette culture philosophique qui nous apprend à penser par soi-même et faire le tri. Évidemment, mieux c'est de pas écouter, mais faire le tri dans tout un tas d'informations que l'on peut recevoir. Je pense que je ferai quand même une séparation entre une information qui se veut une vérité et qui reste en tant que telle. On le voit aujourd'hui pour un tas de gens, la vérité vient de Cyril Hanouna, quoi. C'est lui qui a la vérité. Hein, c'est, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on est quand même très loin de penser par soi-même.
Alors, je voulais parler de la servitude volontaire. En fait, effectivement, je crois que c'est, de toute façon, c'est dans toutes les sociétés, c'est partout. Alors, certaines sociétés où c'est plus rigide, plus dur, où il y a un contrôle, notamment en Chine, où l'État contrôle davantage l'ensemble de la population, mais également, c'est difficilement critiquable de notre côté, parce que les populations, en même temps, ils sont favorables à ce régime. Majorité. Donc on ne peut pas vraiment avoir un point de vue, on va dire, critique, on va dire, c'est mal, c'est mauvais, pour eux, ainsi. De notre côté aussi, on est aussi, en même temps, pas tout à fait libre. C'est-à-dire, on accepte beaucoup de choses aussi de notre côté. Notre société, c'est pas non plus une société, idéale, démocratique, etc., ou ce qu'on veut. Donc on a beaucoup de choses, déjà, de remettre par les choses à remettre en question, déjà, dans notre propre société, avant d'avoir une critique pour notre société. Donc, moi, je crois qu'on est tous aujourd'hui, on va dire, dans une solitude volontaire par rapport au temps, par rapport à ce que c'est quelqu'un qui dirige le monde, ce qui mène le monde. Et donc, la philosophie, effectivement, permettrait de libérer, on va dire, un peu plus, de libérer les esprits, toujours dans une forme d'apaisement, sans nécessairement, qui ne mènerait pas une voie violente, plutôt non violente, et en même temps révolutionnaire. Parce que des idées, des pensées novatrices, sachant que chaque être humain, on va dire, est potentiellement créateur, donc ce serait éventuellement positif, on va dire, vers une avancée un peu plus positive.
Justement, philosophie et idéologie, c'est ça le problème. Et justement, il y a la question de savoir quelle partie ça nourrit en nous, pour l'accueillir ou pas. Si ça nourrit l'ego et une façon de se poser nous-mêmes, eh ben on est très très fragile par rapport à cette idéologie-là, parce qu'elle va renforcer en nous le système. Alors que si c'est cette autre énergie qui n'est pas dupe et qui a ce recul et ce bon sens, on est beaucoup plus protégé. Donc c'est même pas une question de philosophie idéologique, c'est une question de savoir comment on le reçoit et quelle partie de nous le reçoit. Voilà.
La pensée par soi-même, je vais l'illustrer peut-être par rapport à la religion. On a beaucoup parlé quand même de la science, mais on peut faire le parallèle intéressant avec la religion. Si on prend évidemment, je vais revenir peut-être un peu loin, mais de Spinoza, qui a quand même été très novateur et encore plus Kant, il fallait quand même être très courageux du reste pour ne pas provoquer Dieu dans sa morale, qui est ô combien pure, la morale de Kant, alors que la morale, c'était la morale chrétienne. Mais il a fait ça alors qu'il est extrêmement croyant. Mais du coup, ça a amené tout un tas de gens à son époque à penser. Alors, soit ben, sa propre pensée de Kant finalement faisait qu'il y adhérait, ou soit ben, ça les amenait à penser, à prendre finalement la religion. Et son propos, c'était pas de faire se détacher de la religion, c'était de dire on peut voir les choses autrement. Voilà. Donc je pense que, et je reviens sur le commentaire qui a été fait tout à l'heure pour la Chine aussi, c'est il faut que chacun quand même pense, prendre le temps de penser par soi-même.
Le développement de l'esprit critique chez Kant est fondamental. Ouais. Et je ne sais pas. Et encore des gens qui voulaient intervenir. Donc, non, c'est bon. Donc, peut-être, oui, les dernières interventions.
Je vais revenir sur la pensée par soi-même.
Ouais.
Parce que si on n'a pas de philosophe et on est élevé au fond de la forêt comme Mowgli, il n'y a pas de philosophe qu'on peut faire tout seul.
Ouais.
Ça me fait penser à revenir sur un film, Inception, où effectivement, il faut inculquer la pensée en pensant que c'est lui-même qui l'avons pris en compte. Ça me fait penser justement à Pascal, qui aimait bien dans son exercice dire tout sans contraire. Il y a un film français que je trouve très bien, c'est Le Ridicule, où Giraudeau, ça. S'approprie envers le roi à dire que Dieu existe et à la fin, sur un élan de malheur, lui dit très bien, j'aurais pu vous prouver le contraire.
Ouais.
Bon, le lendemain, il n'est plus la cour, il est viré. Donc, à inculquer la philosophie en pensant qu'on a une pensée vraiment personnelle, on peut avoir un doute. Voilà. C'est-à-dire que seul au milieu de son île déserte, il a une éducation, il peut, sur des bases, travailler, mais le retour vers. La religion ou Dieu, effectivement, on revient souvent à ça, même si c'est décorrélé. Et il a peut-être la pensée la plus personnelle parce qu'on ne sait pas.
Une question très basique. Souvent, j'entends, ben, avant, ça faisait plus parler les gens, le plus, le moins. Donc, vous, en tant que professeur, la place, est-ce qu'elle est plus importante maintenant qu'avant? Et puis au fond, on se base sur quoi en fait? Quand on dit plus, moins, est-ce qu'on le sait? Est-ce que, je sais pas, apparemment du temps de Kant où les gens parlaient plus de philosophie, enfin j'entends quoi dans le discours.
Ouais.
C'était tout le temps plus avant.
Ouais.
Est-ce que c'est vrai? Sur quoi on se base? Est-ce qu'au fond, ils étaient entendus, ces personnes-là, Socrate, Kant, etc. Ou est-ce qu'ils étaient lus par une minorité? Moi, je n'ai pas de connaissance là-dessus. Mais j'ai l'impression que des fois, dans l'envie, on dit toujours « Ah bah avant, c'était plus, ou c'était moins, ou c'était mieux. » Mais en fait, ça repose sur pas grand-chose, en fait.
Voilà. Alors, pour conclure...
Moi, j'aimerais revenir sur l'étymologie. La philosophie, philosophia, le terme a été établi par Pythagore. Alors, ça m'intéresse vraiment. Peut-être à la suite de la visite d'Aristote. Donc, philosophie, c'est l'amour, alors, de la sagesse, du savoir, de la connaissance, de la vérité. On peut traduire Sophia de différentes manières, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'amour. Voilà. L'amour, le désir. Et pour quelle raison c'est un désir ou un amour? Parce que, justement, on commence à philosopher à partir du moment où on prend conscience que la sagesse, la vérité, la connaissance, le savoir, parle là-bas. Et c'est bien parce qu'on a conscience qu'on ne l'a pas qu'on va partir à sa recherche. Et c'est en ça où je crois qu'effectivement la philosophie c'est un sport de combat. C'est un sport de combat parce que nous sommes souvent très intimement convaincus que cette sagesse, ce savoir, ben en fait on le possède. Voilà. Et donc la première chose que la philosophie fait, très souvent dans la douleur, c'est un travail de déconstruction. faut déconstruire, faut démolir, faut voilà. Et des fois, il faut y aller de façon très très forte, un coup de marteau, hein, disait Nietzsche. Donc du coup, la philosophie, elle dérange. Quelle est la place pour la philosophie aujourd'hui ? Ben, c'est peut-être justement, on disait, mais ils sont où les philosophes ? Est-ce qu'on entendait plus les philosophes à l'époque ? La philosophie, elle est née avec Socrate, mais elle est née aussi avec la mort de Socrate. Voilà, c'est-à-dire sa parole, son questionnement, voilà, ce qu'il amenait comme pensée. Comme elle est dérangeante, comme elle ébranle, eh ben on la tue, la parole philosophique. Et je prendrai que Galilée, pareil, avec l'Inquisition. Enfin, au bout d'un moment, ok, moi je signe tout ce que vous voulez, elle est triangulaire, la Terre, si vous le voulez. Voilà. Mais, dit-il, elle tourne. Voilà. Ouais. Alors en fait non, enfin pas nécessairement, parce que il y a un problème de nombre, c'est-à-dire discuter sur l'agora, il y avait 500 citoyens à Athènes. Donc du coup, quand on se balade, quand on discute, ils ne travaillaient pas à la chaîne, ils discutaient contre citoyens libres, les esclaves qui travaillaient ne discutaient pas. Donc en fait, les idées circulaient. Et là encore, ce qui tout d'un coup a fondamentalement gêné, c'était la jeunesse. On a dit, hein, penser c'est dangereux, c'est subversif. C'est tout d'un coup, la jeunesse s'est dit, mais tiens, oui, après tout, qu'est-ce que la justice ? Après tout, à qui doit-on donner les charges dans une cité politique ? Est-ce que la force a toujours raison ? Est-ce que le savoir sauve ? Voilà. Et ça, beaucoup de notables, en fait, ne l'ont pas accepté. Et donc, la philosophie, elle dérange à cause de ça. L'atteinte à la stabilité de l'État, mais l'atteinte à l'amour propre, à l'ego, ça dérange. Et c'est peut-être là où ça devient intéressant, c'est-à-dire les philosophes qui sont là. Moi, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'il y a des hommes, il y a des femmes, il y a beaucoup de femmes maintenant qui écrivent, qui se font entendre. Et en même temps, c'est vrai qu'il n'y a plus une voix. Et donc, du coup, le fait qu'il n'y ait plus une voix, comme on a pu l'avoir avec Michel Foucault, comme on a pu l'avoir avec Jean-Paul Sartre, ben, ça nous contraint à aller lire des auteurs des fois extrêmement engagés, je pense dans la cause écologique, à quelqu'un comme Bruno Latour, par exemple, et on y va, et on se confronte, et du coup, c'est vrai que la philosophie, elle devient à la fois intime, mais elle devient aussi collective, c'est-à-dire, elle prend de plus en plus sa place, parce que on l'attend dans le discours porteur de la construction d'une opinion commune. Et c'est en ça où il y aurait peut-être là une filiation avec en fait la Grèce antique. C'est-à-dire, oui, la place de la philosophie, elle est en train de redevenir sur l'agora, dans l'espace public. Alors, c'est vrai c'est toujours un mouvement de balancier. Plus on a une unité qui semble s'imposer par les médias et avec une société qui nous abrutit quand même sur plein de modes différents, plus du coup il y a ce besoin qui se fait ressentir d'autonomie, de liberté, c'est-à-dire de se libérer de ce qui veut nous asservir. Voilà, c'est pas simple.
Oui. Alors, oui, un très grand cynisme, Diogène.
Oui,
d'accord.
Oui. Tu me dis, on regroupe, puis moi je fais des points.
Oui.
Après chacun des vidéos, je fais un défi.
Oui, exactement. C'est Diogène qui sortait de son tonneau terrible, cynique. Hein, si, cynique, il y a. Diogène, il est là. Et puis qui dit, moi je cherche l'homme. Dites-moi où il est, l'humain. Et voilà, il a son poulet. C'est l'humain, comme dit Aristote, c'est un bipède sur pattes. Je plume mon poulet, il est sur pattes. Voilà. Donc, beaucoup d'humour, c'est très décapant. Mais du coup, ça réveille là aussi. Hein. Ça réveille les consciences, ça éveille les consciences. Ouais. Ouais. Mmh. Oui, mais qui peut aussi venir du collectif. Voilà, ouais. Ouais. C'est une petite graine, ouais, tout à fait. Marie-France, ai-je le temps de conclure encore un peu ou pas? Oui, bah, 5 minutes, c'est énorme. Là, c'est énorme. Voilà. Et ensuite, on partira en repas partagé, oui. Non, je voulais juste revenir peut-être sur le lien qu'on a posé entre philosophie, science et puis religion, parce qu'il me semble qu'il y a là quelque chose d'important. On a mis en place les liens, mais je crois qu'il y a, ce sont des domaines qui sont à la fois liés, et en même temps, la philosophie, elle est fondamentalement à part. C'est pourquoi un scientifique est scientifique et philosophe. Enfin, Einstein, il est scientifique et puis à un moment donné, pouf, il devient philosophe dans ses écrits. Pourquoi ? Parce que la science, elle se pense selon le critère de vérité. Et donc effectivement, elle peut évoluer. Parce que ça va passer par l'expérimentation, par exemple. Elle trouve, elle démontre, elle montre ce qu'elle avance. Alors que, parce qu'elle travaille sur la matière, sur quelque chose qui peut répondre. La nature, elle répond mathématiquement aux questions qu'on lui pose. Voilà. Alors que la philosophie, elle interroge le sens. C'est pour ça que c'est un constant renouvellement. Enfin, c'est pour ça qu'elle apporte des réponses qui demandent à chaque fois à être réinterrogées. Parce que, quel est le sens de notre existence ? Voilà, ben voilà, donc c'est toujours à interroger. Elle se base sur le bien commun, c'est-à-dire effectivement, mais quel est le bien commun ? Enfin, voilà, il n'y a pas d'expérience cruciale qui nous permettrait de dire, ben, quand on répond que le bien commun c'est ça, on est sûr de ne pas se tromper. Non, on n'en est jamais certain. Le bien commun, c'est ce qui nous semble être commun et c'est ce qui fait sens à l'heure d'aujourd'hui dans la société qui est la nôtre, avec les difficultés qui sont les nôtres, avec le fait qu'on a tout un passif. Nous sommes par exemple, nous, des Européens du 21e siècle qui avons vécu le siècle des Lumières, des révolutions techniques, politiques, scientifiques et autres. Donc on l'amène avec nous et on pense à partir de ça et on pense avec ça. Et voilà, du coup, voilà quel est notre bien. Et ça, c'est la tâche que nous avons tous à faire constamment. Et c'est de ça dont parle la philosophie. C'est cette construction-là qui est le cœur du discours politique, de ce que devrait être un discours politique, du dialogue que nous avons entre nous ici. Je veux dire, est-ce qu'on fait autre chose que de la politique en ce moment ? C'est-à-dire, dans quelle cité voulons-nous vivre ? Comment voulons-nous vivre ? Comment nous ici, pour le coup, quelle est ma place dans cette société ? Voilà, quel rôle je veux y tenir et quel sens donner à notre action. Merci pour la conclusion. C'est bon, Marie-France ? Merci. Et maintenant, donc, au plaisir de vous avoir avec nous autour d'un repas partagé.